Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30, le meilleur de la table des bons vivants. Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis et merci d'être là, fidèle au poste, les meilleurs moments, ce sont les bons vivants de l'été qu'on vous propose eh bien, pendant toutes les vacances. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi et comme disait le grand Alain Chapelle, la cuisine c'est bien plus que des recettes. Nous irons à Nice retrouver la courgette grise en forme de trompette et côté cuisine vous entendrez que la gamme est variée, très variée. L'été rime aussi avec grande tablée, alors avec toutes les recettes apprises pendant le confinement, c'est le moment de les mettre à exécution et puis de les transmettre hein, surtout. C'est ce que nous ferons avec la journaliste Catherine Roig qui a réinventé le cahier de recettes. Et puis cette année, nous avions reçu aussi le comédien Manu Payet. Alors entre ses recettes d'été et ses souvenirs de vacances, il a tout du bon vivant et il n'est pas en reste devant un panier du marché. Alors le marché, justement, c'est l'heure d'y aller. Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1, a baladé son micro sur celui de la Teste de Buch pour connaître vos goûts côté coquillages et crustacés. Sur la plage abandonnée ou pas?
Du saumon sauvage, c'est hyper rare à en trouver. Donc, la joie, en plus, le prix, il est assez abordable, 32,95. Et ça se voit que c'est du saumon sauvage parce que la couleur, elle est rose pâle. Que le saumon d'élevage, en fait, il est orangé. Ça va être une cuisson très rapide, cuisson sur peau, sans beurre, sans rien.
Votre étal attire beaucoup de monde. Quels sont les poissons qu'il faut manger en ce moment?
Le maigre, la lotte, les rougets, les soles. Ils sont pêchés dans les 24 heures. C'est pêché dans le golfe de Gascogne. Les 4 soles, 10 euros. On a de la petite lotte qui est à 16 euros le kilo. De la petite lotte friture.
On vient systématiquement à la Teste. C'est le début des cerises. Les fraises, il y a les asperges, c'est fini. Non, 2-3 bricoles comme ça.
Il y a des spécialités, là, les tourtières. Ben oui, ça c'est quelque chose qu'on ne trouve qu'ici. Quand on est en vacances, ben voilà. C'est une tarte fine avec...
De la pomme.
Oui, et puis dessus, c'est comme des
pruneaux.
Crêpes très fines qui sont positionnées un peu comme des chips. C'est très sucré, c'est très bon.
Ah oui, ça fait envie. C'est bien la tourtière, avec une belle boule de glace à la vanille, ça marche.
Ça me donne tout de suite envie. Et les poissons pas chers, ça me fait vraiment rêver, hein, toute parisienne
Laurent,
que je suis.
Une belle boule de glace à l'armagnac.
Ah oui, aussi. Ah, oh, ça c'est bien. Oui, Yves Courdebourg, je vous reconnais bien là, dites donc. Le week-end, c'est le moment pour aller au marché, évidemment. Mais alors avec les chaleurs du moment, allez-y tôt le matin à la fraîche. Hein,
ah,
parce
oui.
que c'est vrai que c'est là qu'on se refait un petit coup de santé pour la journée.
Hein,
on est d'accord, Yves Courdebourg?
Complètement. Mais en plus, c'est vrai que c'est le matin qu'on a les étals qui sont charnus. Où il y a tous ces fruits, tous ces légumes, toutes ces victuailles qui sont mises en valeur. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant de le prendre de bonne heure, parce que comme ça, en plus, quand on rentre à la maison, on a le temps de cuisiner.
Exactement, voilà. Donc, de toute façon, on ne dort pas longtemps. Hein. Quand il fait chaud comme ça, on se réveille tôt. Donc, au marché, de bonne heure et de bonne humeur. Il fait chaud, alors justement, la nature est bien faite. C'est la saison des courgettes, dites-moi. Riches en eau et en fibres, elles arrivent à point. On vous emmène du côté de Nice pour les récolter et les cuisiner. A tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, Laurent Bariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Elle est fraîche et de saison, la courgette s'installe à la table des bons vivants et vous allez entendre qu'elle a plus d'une recette dans son sac, la courgette. On va briser d'ailleurs une fameuse réputation, une mauvaise réputation. La courgette n'a pas de goût. Elle a du goût, la courgette.
Ah non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'elle n'a pas de goût. Elle a un goût qui est subtil.
Ah, c'est bien dit.
Voilà, c'est tout en finesse et
c'est
en subtilité.
Délicat.
C'est délicat.
Et c'est aussi parce qu'on a écopé de la courgette d'Espagne qui a inondé les grandes surfaces. Donc forcément, on a perdu un peu en goût. Exactement le même syndrome que la tomate.
C'est la même chose.
C'est la même chose.
La courgette hors sol, voilà, on en a toute l'année. On ne sait plus les distinguer.
Et c'est dommage parce que c'est aussi un légume de saison. Il ne faut pas l'oublier.
Entre la jaune et la verte, il existe de nombreuses variétés. Alors on parle bien de celles cultivées en pleine terre. Et évidemment, c'est vrai que c'est délicat le goût de la courgette. On peut la déguster crue, en plus avec les chaleurs qu'il fait. Enfin, on va en parler dans un instant, mais ça fait du bien.
Mais je pense qu'il faut la déguster crue. Justement, c'est là qu'elle a toute sa saveur, c'est là qu'elle a toute sa subtilité, ce petit côté noisette qui apparaît.
Et herbacé.
Très léger. Il faut la mariner, mais vraiment... J'ai envie de vous dire pratiquement à la minute. Il ne faut pas que ce soit mariné trop longtemps à l'avance, sinon elle perd son eau de végétation. Simplement un petit vinaigre très subtil ou un petit jus de citron, un trait d'huile de noisette avec une râpée dessus de citron. Et on a quelque chose de frais et très léger.
On va vous donner plein d'idées de recettes dans un instant, vous allez entendre. C'est un légume qui a mis du temps à s'installer à notre table, Anne-Laure Femme, la courgette.
Et hein. Oui, on va dire merci aux Italiens, Laurent, parce que c'est eux qui ont eu l'idée de la cueillir avant maturité au XVIIIe siècle. Courge, courgette, zucca,
oui.
Zucchini.
Et oui, zucchini en italien.
Et la courgette, c'est un légume qu'on consomme depuis assez récemment, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'elle a mis du temps a gagné l'Europe du Nord et elles ont été rapportées du Nouveau Monde par les premiers explorateurs.
Ronde, allongée, jaune, ouverte, claire ou foncée, il en existe de nombreuses variétés. Alors direction tout de suite la région niçoise, une belle terre à courgettes avec Frédéric Michel, c'est le correspondant d'Europe 1 dans la région. Alors nous connaissons la petite courgette ronde de Nice qui est idéale à farcir, mais il en existe une autre qui fait la fierté du coin. C'est Julien Laine, un jeune maraîcher bio installé à Villeneuve-Loubet qui nous la présente. Rendez-vous à la fraîche dans le champ de courgettes avec Anne qui aide à la récolte. Au micro de Frédéric Michel.
Il faut récolter la courgette de Nice à l'aurore, toute pleine de rosée en fait. Hein. La voici, la voilà, on est en plein dans la saison.
De la courgette niçoise, alors que vous appelez la trompette. Hein.
Ah oui, je l'appelle la trompette moi. Alors on l'a tuteurée en fait, on l'a fait grimper comme une liane sur un filet. C'est pas courant ici, on l'a fait plutôt courir sur le sol, mais nous on l'a fait en hauteur.
Je vois, on passe sous un pont de trompette.
Voilà, c'est tout à fait ça, une tonnelle de trompette, ce qui facilite aussi la récolte. Hein, Anne?
Oui, parce qu'on n'est pas obligé de se pencher par terre, et puis elles n'ont pas de terre.
Il a plu, elles devraient être pleines de terre, et en fait là, en altitude, ben regardez, elles sont saines, elles sont magnifiques. 20-30 cm. Vert clair, tigré, avec cette fleur magnifique.
À chaque trompette qu'on coupe, il y a une abeille dans la fleur.
Vous l'aimez comment, cette courgette niçoise?
Elle est tellement ferme, elle n'a aucune graine, je la préfère à la vapeur. Vapeur, j'adore la manger froide, avec un petit filet d'huile d'olive, fleur de sel et un petit poivre, voilà.
Il ne faut pas oublier la fleur qu'on mange en beignet de fleurs de courgette. Le fruit, la fleur, tout se mange, c'est merveilleux.
Mais voilà, c'est ça qu'on aime dans la courgette. Effectivement, on peut farcir la fleur et puis on peut déguster comme ça, cru ou cuite, on va vous en parler justement. Le fruit, parce que c'est un fruit, c'est le fruit de la fleur, hein, ce légume qu'on aime déguster en été, Anne-Laure Femme.
Et il faut rajouter que la courgette, c'est très utile dans les recettes sucrées aussi, on n'y pense pas oui. Assez. Ça peut remplacer le beurre, ça ajoute un moelleux mais magnifique à certains cakes que j'ai déjà essayé. Allez-y, essayez, ça va transformer vos gâteaux.
Un gâteau au chocolat et à la courgette,
chocolat,
ça marche.
Courgette, ah, oui. Une association très classique.
Alors c'est vrai qu'elle a une chair fondante, elle fait du bien, elle rafraîchit. Alors je vous ai fait des tagliatelles de courgettes, juste assaisonnées avec un filet d'huile d'olive, du jus de citron, du parmesan pour relever tout ça et de la coriandre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire ce week-end. C'est hyper simple.
C'est super, Laurent, parce que vous avez coupé le parmesan en copeaux, donc du même calibre que les tagliatelles de courgettes. Du coup, ça se mêle nickel. Tout se complète à merveille.
Yves Condebord.
Et là, j'ai envie de vous dire, Laurent, le plus dur, c'est faire simple et vous y êtes arrivé.
Voilà, tant mieux. Non, mais pas beaucoup compliment. De saveur. C'est vrai que c'est simple, c'est agréable, ça. Hein.
Et par contre, il faut surtout dire une chose, ne les faites pas bouillir à l'eau. Parce qu'il y a une tendance à faire bouillir les légumes dans de l'eau. Quand on met des légumes dans de l'eau, on les lave, on les dénature. Donc à la limite, si vous la faites chaude, une poêle, un trait d'huile d'olive, on va la poêler, la caraméliser, mais en la gardant croquante. C'est-à-dire qu'on va la juste la tiédir en gardant la consistance de cru. Et après, on peut déglacer soit avec un petit vinaigre, soit un petit jus de citron, ou voire même un jus de pamplemousse. Et ça vous fait une petite entrée, si vous voulez faire froide, ou un accompagnement de poisson. C'est simple, c'est efficace.
Et puis on rentre dans la période de la ratatouille, une ratatouille à la niçoise où on cuit les légumes séparément. Yves Condebord, vous validez ça?
Oui, totalement, parce que ce qui est intéressant justement, Laurent, de cuire les légumes différemment, individuellement, c'est qu'on a des structures différentes. Et c'est très plaisant quand on met ça
qu'est-ce
au palais.
Qu'est-ce que c'est bon ça?
Ça déclenche une émotion sur les papilles gustatives qui est remarquable.
C'est long à faire, mais c'est bon.
Et oui, puis avec ces chaleurs, il faut en faire beaucoup, effectivement, parce qu'on peut en manger plusieurs jours.
Ce n'est pas long de cuisiner, alors c'est du plaisir.
C'est que de l'amour.
C'est du plaisir, c'est que de l'amour.
Il faut la prévoir, la ratatouille, messieurs, quand même.
Mais avec cette chaleur, on la déguste froide. Et une petite mise en place de taillage de légumes, mais après, ça va vite. Non, non, voilà, faites une belle ratatouille froide pour ce week-end. Allez, ne bougez pas. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
C'est l'heure d'accueillir notre invité pour parler de la transmission de nos recettes. Elle a longtemps dirigé les pages cuisine du magazine Elle, fille de restaurateur. Elle a dirigé aussi le magazine Version Femina. Alors qu'il s'agisse de cuisiner ou de transmettre, elle a toujours la bonne recette, croyez-moi. Catherine Roig est notre invitée. Bonjour Catherine.
Bonjour Laurent.
Et vous venez de sortir un très joli livre qui s'appelle SOS Recettes, les recettes secrètes de Catherine Roig aux éditions Hachette Cuisine. Un petit livre très pratique. Déjà, d'où vous est venue l'idée? Parce que vous avez repris en fait le concept, le format du texto qu'on s'envoie tous, mais là avec des recettes à l'intérieur.
Mais figurez-vous que quand j'étais à Elle en charge de la cuisine, il y a à peu près 17 copines par jour qui passaient une tête et qui me disaient « Catherine, j'ai un dîner ce week-end. Catherine, j'ai mes beaux-parents à déjeuner. Catherine, donne-moi vite une recette. » Donc à un moment, il y en a une à qui j'ai répondu « Écoute, tu me saoules, c'est la troisième de la journée, je t'envoie ça par SMS. » Et elle m'a dit « Je te saoule peut-être, mais tu devrais en faire un livre. » Et voilà, je l'ai écoutée et je la remercie.
Quelle bonne idée. Sans recette, des recettes alors facile, simple, mais tout original, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a des grands chefs qui vous ont soufflé des idées, il y a votre entourage aussi qui est très présent dans ce livre. Et le format est très pratique, il est tout petit. On retrouve bien la touche féminine, c'est pour mettre dans le sac à main, ça.
Absolument, à emporter partout, en vacances, dans la poche. Vraiment, j'ai voulu un truc facile, parce que quand on dirige un journal ou quand on est journaliste, quand on est une femme active ou un homme actif d'ailleurs, on n'a pas le temps non plus de cuisiner très longuement. Donc j'ai voulu des recettes simples, rapides, mais toujours inspirées par la curiosité et la gourmandise.
C'est vrai que la façon de transmettre nos recettes a changé, hein, du cahier de recettes de nos grands-parents écrit avec une belle plume, avec des pleins et des déliés. Aujourd'hui, les tutos sur Internet, les recettes par texto, par SMS, la transmission évolue au fil du temps.
Elle évolue avec notre façon de communiquer. En même temps, moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que la génération des femmes post-68 n'a pas beaucoup transmis de recettes pour une raison toute simple, c'est qu'elles voulaient sortir de leur cuisine, et ça, je le comprends.
Il y a eu une vraie rupture de la transmission avec 68, où beaucoup de mères ont dit à leur fille, tu vas pas cuisiner, c'est un truc de femme au foyer, surtout t'embarque pas là-dedans, et on le ressent aujourd'hui.
Ce que je comprends très bien, et c'est là, je voudrais dire que la transmission ne doit pas être seulement féminine, mais j'ai discuté de ça avec le chef Rollinger récemment, en disant, mais il faut que tout le monde cuisine, les hommes, les femmes, tout le monde cuisine parce que c'est bon pour nous, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour la planète. Il faut absolument s'y remettre et c'est faisable. Mes recettes, elles sont faisables en 5 minutes. Hein.
Bien sûr, c'est des recettes courtes, des produits de saison, encore une fois. On ne le rappellera jamais assez, mais cuisiner avec les saisons, Yves Condebord, permet de faire des économies et permet de faire du bien à la planète aussi.
Bien sûr, c'est le bon sens paysan. Voilà. Puis c'est surtout, ça permet de la diversité, ça permet de conserver le goût, l'essence pure du produit. Parce que Laurent, il faut dire aux gens, c'est à la bonne saison que le produit il est le meilleur et surtout, il est le moins cher. Donc on peut cuisiner de qualité avec un prix réduit. Et en plus, avec les recettes de Catherine, on peut le faire facilement et rapidement.
Vous racontez souvent d'où viennent vos recettes dans ce livre, Catherine Roig. Par exemple, il y a une soupe de banane au lait de coco qui a été transmise par une vendeuse de rue à Bangkok, c'est ça, hein ?
Oui, voilà, j'étais en reportage là-bas. Je goûte, vous savez, en Asie, il y a beaucoup de petits vendeurs de rue, street food, etc. Et je goûte cette petite soupe. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à communiquer avec cette dame. Mais en anglais et avec mon interprète, on a réussi à se dépatouiller. Elle m'a donné sa recette et je la remercie encore. Mais ça peut être aussi des grands chefs hein, que j'ai rencontrés au fil de mes reportages. Ça pourrait être Yves, ça peut être Alain Ducasse, ça peut être Christophe Michalak, Pierre Hermé, Hélène Darroze. Je veux dire, ils me donnent tous des idées et dans ce qu'ils font et dans les reportages que j'ai fait avec eux. Et tout d'un coup, cette idée-là, moi, évidemment, je ne vais pas la faire comme les chefs la font. Je n'ai pas cette prétention. Mais une petite idée va tout d'un coup twister une recette et en faire quelque chose d'original.
Eh bien, on en parlera. On va rentrer dans le vif du sujet. On parlera aussi des cahiers de recettes de nos grands-parents. Allez, ne bougez pas, on revient tout de suite sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
La cuisine, c'est bien plus que des recettes, disait le grand chef Alain Chapelle. Eh bien, nous parlons des histoires et de la façon de transmettre nos recettes du quotidien avec notre invitée Catherine Roig. Un petit sondage que nous avons fait, Catherine, sur le groupe Facebook des Bons Vivants. On a demandé aux gens qui nous écoutent comment ils cherchaient leurs recettes de cuisine, comment ils se les transmettaient. Alors, en un, via Internet. Hein, en deux, les livres de cuisine. Ensuite, la télévision. Et seulement 3% des personnes qui nous écoutent disent qu'ils les récupèrent auprès de leur famille. Ça paraît peu quand même, ça. Hein.
Oui, ça me paraît très peu. C'est un petit peu décevant, puisqu'on a quand même toutes des recettes de grand-mère, de grand-père, de père, de mère. Moi, j'aime bien transmettre mes recettes à mes filles. Et évidemment, moi, je suis fille de chef, donc mon père me transmettait des recettes, mais c'est un petit peu dommage.
C'est ce que j'allais dire. Vos parents étaient restaurateurs dans le Morbihan, avec un papa catalan, une maman bretonne, donc vous avez grandi vraiment dans l'antre des recettes.
Absolument, j'ai grandi dans le parfum de la paella catalane, accompagnée de langoustine bretonne, qui était la spécialité de mes parents et qui était absolument dingue. Voilà. Et c'est vrai que j'avais des parents qui étaient tout le temps en recherche. C'était le début des fours vapeur. Mon père faisait cuire des moules à la vapeur et pour rappeler ses origines catalanes avec un peu de vinaigre, un peu de poivre. C'était extraordinaire. Voilà. Donc j'étais tout le temps dans ce mouvement-là et comme vous disiez tout à l'heure, dans le mouvement des saisons. On voyait arriver avec plaisir les crevettes bouquet quand c'était la saison, les cerises quand c'était la saison. C'était le bonheur.
Olivier Pouls.
La transmission des recettes et l'écriture de livres, c'est l'histoire de la cuisine française. C'est même une de ses spécificités. Dès 1651, François-Pierre Lavarenne, le cuisinier français, codifie. Ensuite, il y a évidemment Escoffier à la fin du 19e, Ali Bab, et puis tous les cuisiniers plus récents qui ont amené leur pierre. Et c'est vrai que la transmission au travers des livres, c'est une des très grandes spécificités de notre cuisine, que n'a pas par exemple la cuisine italienne, qui est plus une cuisine de transmission orale.
C'est vrai, et dans votre livre, Catherine Roig, hashtag SOS Recettes, paru chez Hachette Cuisine, vos recettes ont toute une histoire en fait, c'est ça qui les rend attachantes. Je parle de votre bœuf bourguignon par exemple, il y a un petit truc dans le bœuf bourguignon, c'est pas un comme les autres.
Ah oui, ça c'est un jour, je faisais une interview d'Alain Passard, qui est un immense chef, comme chacun sait.
Le roi du légume.
Et lui, comme vous savez, n'aime pas beaucoup la viande, enfin il ne travaille pas beaucoup la viande en tout cas, mais on parlait, je ne sais pas pourquoi, au cours de l'interview, d'un bœuf bourguignon. Il m'a dit, écoute, tu devrais, quand tu mets un bourguignon au four, tu rajoutes un petit verre de crème de cassis, tu le mets toute la nuit au four et ça donne un petit parfum inégalable. Je ne fais plus jamais un bourguignon sans crème de cassis.
Et oui, elle est dans le livre et sous forme de texto, donc très simple et rapide à faire.
Très simple.
Alain Ducasse aussi, qu'on a reçu à cette table il n'y a pas longtemps, qui est un dingue des pommes cuites au four.
Oui, et ça c'est une recette que d'Alain Ducasse que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est d'une simplicité biblique. Moi, j'ai fait une petite entorse à la recette d'Alain Ducasse car il déteste la cannelle, comme beaucoup de chefs d'ailleurs. Moi, j'ai rajouté un peu de cannelle. Ce sont des lamelles de pommes que vous mettez dans une cocotte en fonte, en porcelaine, ce que vous voulez. Un petit peu de beurre, un voile de sucre et un peu de cannelle si vous voulez. Et vous laissez ça cuire tout doucement pendant 3 ou 4 heures. C'est magnifique.
Alors, vous connaissez tout le gratin de la cuisine. Et à propos de gratin, vous donnez la recette du gratin dauphinois à la façon d'Anne-Sophie Pic. Et on a une surprise pour vous au téléphone. On a quelqu'un qui voudrait vous parler de ce gratin, justement, Catherine Roig. Allô, bonjour.
Bonjour Laurent.
Bonjour Anne-Sophie Pic.
Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Catherine.
Bonjour Anne-Sophie, comment vas-tu?
Qu'est-ce qu'il a de particulier ce gratin, Anne-Sophie Pic, vous la chef 3 étoiles à Valence?
Il est bien sûr de cette passation de famille, cette transmission de mon grand-père et de mon père. Je suis très honorée de savoir que Catherine l'aime aussi et a voulu le mettre en valeur dans son livre. Quel bonheur et quel honneur. C'est vrai que ce gratin dauphinois, je l'ai mangé durant toute mon enfance et c'est un plat merveilleux de simplicité et à la fois, il y a des petits codes à connaître, c'est-à-dire qu'il faut faire cuire les pommes de terre, commencer à faire cuire les pommes de terre dans le lait et la crème. Et puis donc la fécule de pomme de terre va lier un petit peu ce lait et cette crème qui vont servir ensuite, lorsqu'on va mettre l'ensemble de la préparation dans le gratin, de finir la cuisson au four tranquillement. Alors, il y a un peu de noix de muscade, il y a une gousse d'ail écrasée aussi à l'intérieur du gratin, ça c'est important, la muscade.
L'assaisonnement, oui, important. Hein.
L'assaisonnement, tout à fait. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de fromage. Il gratine ce gratin avec les petits dés de beurre qu'on va mettre au-dessus du gratin et qui vont gratiner à la cuisson sous la chaleur du grill.
Et cette première cuisson, vous la laissiez reposer un petit peu au réfrigérateur avant de faire une deuxième cuisson, si j'ai bien suivi, hein?
Oui, pour que ça gratine bien, c'est vrai qu'il faut laisser refroidir le gratin, bien qu'il prenne, et ensuite rajouter ces petites noix de beurre frais et qui vont fondre, bien sûr, sous le grill et qui vont gratiner. Et c'est ça qui va faire le côté gratiné.
Et oui, cuisson en deux temps. Tiens, alors justement, du temps qu'on vous a au téléphone, Anne-Sophie Pic, vous le mangez avec quoi en famille, ce gratin dauphinois?
Souvent le poulet du dimanche, le poulet à l'estragon, parce que ça c'est quelque chose aussi de classique dans la famille. D'ailleurs, l'estragon est souvent venu dans ma cuisine à mes tout débuts, parce que c'est une réminiscence un peu de l'enfance et de ce plaisir de goûter le poulet à l'estragon. Je le goûte encore, ma mère me le fait encore de temps en temps. Alors, le jus est merveilleux, le poulet est un peu confit, un peu trop quelquefois, mais finalement on aime le poulet pour le jus aussi, comme chacun le sait.
Merci d'avoir été avec nous au téléphone, Anne-Sophie Pic, et vous venez quand vous voulez à cette table, vous le savez, vous êtes ici chez vous, hein, on vous attend.
Quel bonheur de vous y entendre, en tout cas. Merci.
Merci Anne-Sophie.
Merci Anne-Sophie.
Et bon service à Valence. Merci. Catherine Roig, vous avez une recette de petits pois qui est dans ce livre, un velouté de petits pois coco.
Voilà.
Alors racontez-nous comment vous faites ça.
Moi j'aime beaucoup, alors je fais rissoler quelques dorés, alors au beurre, à l'huile d'olive comme vous voulez, quelques soit oignons frais, soit échalotes, soit on mélange les deux, hein. C'est un petit peu aussi ce qu'on a sous la main.
C'est bon,
on
ça.
Rajoute des petits pois, donc 400 grammes si vous êtes 4, ce qui veut dire 800 grammes avant d'être écossais. Vous rajoutez moitié bouillon de volaille, moitié lait de coco, et ensuite vous mixez tout ça avec, moi j'aime bien pimenter,
donc je mets
il y a une pointe de gingembre en poudre, un très très bon gingembre en poudre.
Qui pique un peu. Hein.
Voilà, et une petite pointe de piment de Cayenne parce que moi j'aime ça. Voilà, et beaucoup de menthe. J'adore la menthe, donc j'en mets un petit peu partout.
Et ben adopté.
Voilà, et ben, tant mieux, tant mieux.
C'est bon,
frais,
hein.
C'est délicat. Et...
Le chef qu'on déborde adopte. Alors
oui,
là.
C'est bon parce que c'est vrai que le lait de coco c'est toujours très délicat. Souvent c'est quand même très présent et c'est un peu agressif,
trop gras.
Je trouve,
oui.
Trop gras. Tandis que de le partager à 50% avec un bouillon de volaille, ça amène un bel équilibre.
Ça c'est un esprit un peu gaspacho. Hein.
Ouais, moi, j'aime bien ce côté piquant.
SOS recette de Catherine Roig, paru chez Hachette Cuisine. Ne bougez pas, on vient dans un instant avec un petit voyage dans le temps de la cuisine de nos anciens. Pas de texto, mais nous en laisser de beaux cahiers, vous entendrez. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
On parle de transmission de recettes ce samedi matin avec Catherine Roig, notre invitée qui vient de sortir SOS recettes chez Hachette Cuisine. Un petit livre de 100 recettes. C'est 100 recettes coup de cœur, facile, original, racontées sous la forme de langage texto. Donc ça veut dire très courte et très facile à réaliser. Une autre façon de transmettre les recettes de famille, Catherine Roig, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le carnet de recettes de nos grands-mères. Vous avez un carnet de recettes qui traîne dans la famille, qu'on se repasse comme ça de génération en génération ?
Non, moi j'ai le carnet de recettes de mon père, voilà, qui était chef cuisinier et qui écrivait ses recettes.
Oui,
voilà,
on dit les grands-mères, mais les grands-pères aussi ont écrit beaucoup de livres de cuisine aussi.
Absolument.
Et de recettes, on va dire, de ménagères, pour parler, comme on le disait autrefois, avec l'école des arts ménagers quand même.
Malheureusement, je n'ai pas les cahiers de ma grand-mère catalane, mais j'ai des souvenirs merveilleux de riz, ce qu'on appelle la paella, nous, mais ce que les Catalans appellent le riz, ou d'une très très étrange omelette à la farine, qui en fait datait de la guerre d'Espagne. Ils n'avaient pas assez à manger, donc s'il y avait 2 œufs pour 6, c'est bien, on rajoutait de la farine, on faisait frire tout ça dans l'huile d'olive. Ça a un goût inoubliable pour moi. C'est une madeleine, une petite madeleine.
Alors, on va se pencher sur les cahiers de recettes de nos grands-parents, justement, avec Éric Roux, qui est journaliste culinaire, porte-parole de l'Observatoire des cuisines populaires. Bonjour Éric Roux.
Et bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous faites un joli travail de conservateur, c'est-à-dire que vous conservez toutes ces recettes anciennes, celles écrites par nos parents, nos grands-parents, nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrière-grands-parents. On est bien loin des textos là quand même, hein. Et c'est vrai qu'on avait un autre rapport au temps, j'imagine, à l'époque avec l'acte de cuisiner.
Ah, complètement. Il y a une notion qui est intéressante. Alors, en termes de temps, ça va effectivement de la fin du 19e jusqu'à il y a quelques années. Hein, ça peut être nos parents ou même nous-mêmes qui fabriquons ces carnets de cuisine. Il y a une notion qui est importante, c'est vraiment un passage d'une cuisine de tradition orale à une cuisine qui essaye de se fixer, de se normaliser. Et il y a plein de choses à observer justement dans ce passage, dans cette tension qui peut exister à « je fais dans l'habitude, j'essaye de produire le goût que je désire et j'essaye de le fixer pour le transmettre à mes enfants, à quelqu'un d'autre ». Vous savez, à l'heure actuelle, j'ai dû recueillir à peu près 150 cahiers de cuisine sur toute la France.
J'en ai un de 1923 de ma grand-mère, avec ces belles écritures, là. C'est magnifique, ça.
Oui, chance.
C'est magnifique, c'est des beaux objets. Mais après, il y a une chose dont je voulais vous parler. Il y a un truc qui apparaît, qui est intéressant, c'est que très souvent, c'est des recettes qui ne sont pas fermées. En ce moment, on commence à avoir les premiers navets, les premiers petits pois, des radis. Et certes, il y a une recette avec les navets, les petits pois ou les radis, mais derrière, il y a l'utilisation des fans, par exemple. Je pense à un cahier où il y a une recette comme ça, où la personne récupère toutes les fans, tout ce qui normalement part à la poubelle ou mieux au compost, et ça donne une soupe qui est absolument extraordinaire, parce que c'est une soupe qui est variable suivant l'instant, la saison, l'envie, le goût, et je trouve que c'est une proposition culinaire qui est super intéressante, parce que elle ne marche pas ou pas.
Eh bien, merci Éric Roux d'avoir été avec nous au téléphone. Vous êtes le gardien du temple, hein, de ces cahiers de recettes de nos grands-mères. Ne les écornez pas surtout. Et on peut les retrouver sur l'Observatoire des cuisines populaires, en fait. C'est sur Internet que ça se passe. Hein.
C'est sur Internet, oui. On tape Observatoire des cuisines populaires.
Merci à
vous. Je vous embrasse.
Merci, nous aussi. Merci Éric Roux. Bye bye. Comment conservez-vous vos recettes de cuisine? C'est ce que nous avons demandé au groupe Facebook des Bons Vivants. Essentiellement dans un cahier, effectivement. Dans ma tête, disent les gens, sur une application dédiée et sur un fichier informatique. Donc le cahier est toujours là, Yves Candebord.
Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai envie de dire, si on a des jeunes cuisiniers qui nous écoutent, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est que pour pouvoir construire le futur, il faut vraiment connaître le passé. Et ça, c'est indispensable. Et c'est comme ça qu'on va construire l'avenir, en s'appuyant sur notre passé.
C'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Hein. On sent qu'il y a du vécu dans ce livre, SOS Recettes, des recettes racontées sous forme de texto, mais il y a l'apport de vos parents, l'apport
Absolument.
De ces grands chefs. Merci Catherine Roig d'avoir été avec nous à cette table.
Merci Catherine.
SOS Recettes chez Hachette Cuisine.
Europe 1, 11h30, Laurent Mariotte.
Bientôt midi, moi le quart, les amis, c'est l'heure de retrouver le camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Alors ce samedi, il brosse le portrait d'un artisan du goût qui sillonne les routes de campagne pour prêcher la bonne parole de la charcuterie. Mais pas que, écoutez.
Eh bien le bonjour les compagnons de la fourchette. Cette semaine, j'ai fait une petite échappée, une échappée belle, comme on a l'habitude de dire, en partant, en accompagnant un commerçant qui, avec sa camionnette, passe de hameau en hameau. Et j'ai été particulièrement ému parce que c'était la dernière tournée de ce charcutier boucher, Monsieur Bellamy, qui est à Réville, exactement dans la Manche. Et il fait les quatre coins de ce département en arrivant, vous savez, en klaxonnant avec sa camionnette un peu ancienne. Et tous les gens sortent de chez eux pour venir acheter leur petit morceau de viande. Et il avait pour habitude d'aller dans un tout petit bout de hameau de deux maisons pour apporter un morceau de boudin à un couple de personnes âgées. 80 centimes le petit morceau de boudin. Mais en retour, il revient avec l'ordonnance et on dit « La semaine prochaine, vous pouvez me rapporter mes médicaments ?» Et lui-même fait une sorte de facteur gourmand comme ça et il revient avec son pochon, ses aspirines et autres comprimés à prendre. Ce sont des contacts, ce sont des liens qui sont établis entre ces commerçants et ces personnes qui ne bougent plus de chez elles. Alors attention, lorsque vous voyez ces petits camions passer tonitruants, klaxonnant dans les hameaux, saluez-les parce que j'ai un peu peur que ça disparaisse avec le temps, avec l'histoire, parce que ce ne sera plus, comme on dit, rentable bientôt et on perdra un petit bout de vie et ça m'égratigne le cœur.
Oh, c'est bien dit. Nous sommes d'accord, Jean-Luc Petit-Renaud. Il a complètement raison.
C'est tellement vrai.
Et surtout, non seulement les saluer, mais arrêtons-nous pour leur acheter quelque chose. Il faut maintenir ce commerce-là.
Les boulangers ambulants, les
poissonniers. Moi, j'avais le poissonnier quand j'étais petit, le charcutier.
C'est vrai que ces gens-là gardaient ce lien social entre la campagne et la ville. Et c'est exactement pareil, la même sensation quand on va au marché, on a face à nous un artisan qui explique ses produits, qui les vit, qui les aime. Et donc, obligatoirement, qui va vous les faire apprécier.
Soutenons les commerces ambulants. Et si vous êtes au volant en écoutant la table des bons vivants, klaxonnez pour nous au volant de votre camionnette. C'est bientôt l'heure, les amis, d'accueillir notre invité. Après avoir débuté à la radio, c'est un homme de scène et de cinéma. Manu Payet sera des nôtres. A tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez. La table des bons vivants dresse le couvert tous les samedis de 11h à 12h30 sur Europe 1. Recettes, bonnes adresses, nouveautés. Nous sommes là pour bien manger et comprendre ce que nous mangeons. Et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Alors il a commencé à la radio sur son île natale de La Réunion avant de débarquer en métropole. Comme un poisson dans l'eau derrière le micro, on le retrouve rapidement sur scène avant de passer devant et derrière la caméra au cinéma. De tout ce qui brille à situation amoureuse, c'est compliqué. Il a tout pour être heureux. Manu de son prénom, Emmanuel pour les intimes. Il se dévoile actuellement dans son dernier one-man show. Manu Payet est notre invité. Bonjour Manu Payet.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Bonjour. On est ravis de vous recevoir parce qu'on sait que vous êtes un fin gourmet et un gourmand en plus.
Fin gourmet, un gros gourmand.
Alors que votre vrai nom, paraît-il, c'est le roi du rougail saucisse, c'est
ouais.
ça Une spécialité de La Réunion.
Mais c'est bon, c'est très bon.
Ah bah c'est magnifique.
Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'en ai réussi un, le dernier que j'ai réussi en Grèce.
Ah oui,
un rougail saucisse en Grèce,
c'est
oui,
la cuisine
avec
fusion.
Avec les produits grecs, oui, cuisine fusion. Et puis alors, ils sont 15, ils m'ont suivi dans l'avion, ils se sont vus s'installer ici à côté de moi.
Votre nom actuel, c'est Emmanuel, hein, donc titre de votre dernier spectacle. Rien que la photo de l'affiche, elle donne envie d'aller vous voir sur scène parce qu'il fallait y penser. Elle est géniale cette affiche. Hein. On vous voit dans ce mythique fauteuil en rotin, en osier, comme la belle Emmanuel.
Oui.
Ouais, voilà. On va l'entendre. Chaque fois qu'on dira Emmanuel, on l'entendra Pierre Bachelet.
Ils ont raison,
comme ça.
Oui, c'est une idée que j'avais eue pour mon premier spectacle. Et puis, j'ai pas osé le faire parce que c'était mon premier, que je venais d'arriver. J'étais pas sûr. Et puis, voilà, là, pour le deuxième, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on se lance. Et on a fait ça avec mon copain Joachim Ronsin. J'ai entendu un son très, très, très sympathique.
Très agréable.
Faut rester concentré.
Ouvert par Olivier Pouls, que nous allons déguster dans un instant parce que les deux minutes du vin approchent. Mais avant, Manu Payet, je voudrais connaître votre goût de la semaine, votre goût des vacances.
Ah bah, mon goût des vacances, je ne sais pas s'il faut le dire parce que je ne sais plus si je peux le prononcer tellement j'en ai bouffé, c'est feta.
Ah, bon, ça va, c'est deux syllabes.
Oui, deux syllabes, mais enfin, à l'intérieur.
Avec un peu de sel,
ça va plus lourd. Ouais,
vous n'êtes pas parti à La Réunion en vacances, visiblement.
Non.
On l'a
je
vu.
Suis
hein.
allé, là où il fait beau, je suis allé en Grèce et c'était formidable. Mais alors, qu'est-ce que j'ai bouffé comme feta?
Salade grecque?
Ah bah salade grecque c'est le prénom.
Spanakopita.
Spanakopita, souvlaki, j'allais dire teppanyaki, non c'est pas, sûr, c'est pas le même continent. Les olives, la totale. Et alors parfois c'est bon et parfois c'est moins bon. Surtout la feta. Ça fait un bruit parfois, quand elle est pas bonne, ça fait un bruit de plastoc sur les dents.
Oui,
t'as
non,
envie de
pas.
T'en faire des tongs. Ça c'est quand elle est pas bonne. Quand elle est bonne,
lait de brebis, la vraie feta, hein.
Tout à fait. Après je sais pas avec quel lait était faite celle que je n'ai pas aimée, mais je vous garantis que c'était pas un animal.
Et alors là on a quelque chose justement pour célébrer votre goût de la semaine, c'est une feta, c'est très light hein, qui ouais. est frite tout simplement.
Ah.
Voilà, donc c'est du fromage
frit, le fameux saganaki.
C'est ça, c'est exactement, c'est ce que vous avez dégusté là-bas aussi en Grèce pendant vos vacances, parce qu'on vous a vu sur Instagram mettre de belles photos de vos vacances. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on rentre de vacances, on n'a même plus besoin de raconter ses vacances. On a vu tout sur Instagram.
C'est dingue. Hein ? Les gens te disent plus « alors où t'étais ?» T'étais où alors ? On te dit plus ça, on te dit alors la Grèce.
C'est ça ? Alors le spanakopita, alors la feta.
Ouais, exactement.
Alors de la Grèce au yaourt, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir avec Yves Candebord, puisque le fait maison fait partie des bonnes résolutions de la rentrée. Yves, vous allez nous convertir au yaourt maison parce que vous avez rapporté dans vos bagages une belle yaourtière.
Oui, j'ai fait un test de yaourtière parce que ça m'intriguait. C'est vrai que on a tendance à acheter des yaourts industriels souvent de mauvaise qualité. Donc je me suis intéressé là-dessus et j'ai trouvé une marque française. Alors c'est tant mieux parce
Cocorico.
Que c'est un Cocorico. C'est la marque Lagrange qui fait une yaourtière qui n'est pas très chère. Elle vaut entre 60 et 65 euros et qui est très facile d'utilisation. J'ai envie de vous dire, Laurent, il n'y a rien à faire.
Non, mais c'est surtout vite amorti parce qu'on va rappeler quand même les avantages de faire ces yaourts à la maison, Yves Candebord.
Le premier avantage, il est financier. C'est moins 50%, ce qui est quand même important avec la consommation de yaourt souvent dans une famille.
Vous êtes yaourt, Manu Payet ?
Oh oui, bien sûr. Il faut toujours être un peu yaourt dans sa vie.
Et après, ce qui est aussi important, c'est le choix de la matière première. Je mets ce que je veux dedans et je sais ce que je mets dedans.
Alors, on peut choisir effectivement comme base de départ un bon lait bio, quelque chose qui a du goût déjà.
C'est primordial. La première chose, c'est du lait cru. Et ça, vous le trouvez sans aucun problème. Vous demandez à votre fromager de vous en commander. Il vous fera 1 litre de lait cru. Après, simplement, c'est juste le mélanger avec un yaourt fermier et le tour est joué. On moule, on met dans la machine, 10 heures après, il faut quand même 10 heures.
Oui, il faut
donc
du temps. Ouais.
À prévoir, vous avez un yaourt qui est d'une qualité, qui est d'une pureté exceptionnelle. On peut, si on veut, l'aromatiser. Moi, je me suis amusé à me rappeler un peu les vacances, j'ai mis un peu de fleur d'oranger.
Ah,
mais
c'est
après,
bon, ça.
Selon son goût, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans, juste pour lui donner une saveur supplémentaire. Surtout ne pas le sucrer.
Oui, ça,
parce
vous
que
êtes...
du sucre.
Ça sert à rien.
Et puis c'est surtout qu'on en mange largement assez long. Il faut savoir après que les yaourts qu'on achète dans le commerce, par exemple quand on prend un yaourt aux fruits, c'est 3 morceaux de sucre par yaourt.
Ah oui, donc tandis que ceux-ci, ils sont censés goûter, tiens Manu Payet, vous allez
voir volontiers.
Ce que vous en pensez. Alors ça, c'est le fleur d'oranger que vous allez donner à Manu.
Alors, non,
mais qu'est-ce que vous faites ?
J'aime d'aller voir, vous allez voir.
Là, on est plus sur du sucré.
On est sur du sucré.
Racontez.
Cet été, je vous ai parlé.
Oui.
De ma spécialité de l'été.
Votre confiture de tomate ?
C'est une
confiture de tomate.
Ah oui.
Avec les citrons au sel, qui est une petite merveille, mélangée avec le yaourt, ça vous fait un sucré salé qui est remarquable.
Ah, c'est super ça.
Parce que souvent, le yaourt, on pense au yaourt toujours en dessert.
Mais non, on peut le prendre pour démarrer un repas, bien
exactement,
sûr.
Exactement, le côté lacté, cette fraîcheur que le lacté amène, il suffit de prendre une planche, de déposer des tranches de jambon dessus, de l'accompagner de yaourt. Avec
Manu Payet, verdict Manu Payet.
C'est très bon, c'est effectivement, c'est inattendu parce que le côté sucré-salé, je ne connaissais pas avec le yaourt et ça marche pourtant très bien.
Ouais. Ça, c'est un yaourt nature à la base.
Là,
hein.
C'est un yaourt nature. Et en plus, là, ça a été relevé avec une pointe de piment.
Ah, que j'adore.
Je pense voilà, que c'est très bien que vous allez adorer, mais c'est un piment particulier parce que c'est le piment d'Espelette.
Et oui.
Voilà. Et en version sucrée, à la fleur d'oranger. Donc,
à la fleur d'oranger. Alors, important, Laurent, n'essayez pas de faire des yaourts aux fruits. C'est pour moi une hérésie. On fait un yaourt nature, on prend un fruit de saison qu'on coupe et qu'on dépose dans son yaourt. On n'aura pas de rajout de sucre supplémentaire.
Mais des figues, là, c'est la pleine saison des figues,
et
des mirabelles, des
goût,
prunes.
On a le goût du fruit. On a le vrai goût du fruit à la bonne saison.
Surtout que les yaourts aromatisés aux fruits, comme je viens de le dire, sont aromatisés avec des arômes de synthèse parce que le fruit ne permet pas de donner le goût au yaourt. Donc prenons le goût originel des fruits de saison et des fruits du moment. Vous êtes d'accord, Manu Payet ?
Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord.
Combien de temps on les conserve ces yaourts ?
Alors ce yaourt, vous pouvez le conserver sans aucun problème pendant 3-4 jours au frigo, sans aucun problème. Après, Laurent, quand même, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai mis la recette de mon condiment tomate-citron sur le site des bons vivres.
Ah, oh, vous êtes sympa.
Ah, ah, mais bon, moi, je vais le goûter, tiens.
Europe1.fr. Nous allons y aller, voilà, découvrir cette recette. Ne bougez pas, on revient dans un instant. On remercie d'ailleurs le traiteur Mavromatis hein, pour cette feta qui vraiment inonde la table des bons vivants aujourd'hui pour Manu Payet qui est de retour de Grèce. Et on se retrouve dans un instant pour partager le plat du jour de délicieux petits farcis venus du côté de Nice.
De Nice.
À tout de suite. Magnifique. Sur Europe 1.
Il est midi sur Europe 1. Les titres du journal à la mi-journée, Adrien Beck. Bonjour Adrien.
Bonjour Julie, bonjour à tous. On n'en peut plus. Jean Castex interpellé ce matin par des habitants de Nice. Déplacement avec à ses côtés le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice à la suite de coups de feu tirés en pleine journée lundi dans le quartier sensible des Moulins. Nous sommes là pour agir, a répondu le Premier ministre qui doit s'exprimer dans quelques minutes depuis la préfecture. Invité d'Europe 1 ce matin, le maire de la ville, Christian Estrosi, demande un renforcement des pouvoirs de police du maire. Nous serons sur place dès le début du journal de midi et demi. Un peu plus de 1100 cas de coronavirus recensés sur les dernières 24 heures en France. La Direction Générale de la Santé s'inquiète d'une nette augmentation des contaminations ces derniers jours. Pas d'augmentation, cela étant, du nombre d'hospitalisations. En métropole, un nouveau département est en situation de vulnérabilité. Le Nord, qui vient s'ajouter à la Mayenne, aux Vosges, au Finistère et à la Gironde. Dans les aéroports, les voyageurs en provenance de 16 pays où l'épidémie est la plus forte devront fournir un test négatif sont concernés, notamment les États-Unis, le Brésil et l'Algérie. Un nouvel épisode judiciaire pour Patrick Balkany, l'ancien maire de Levallois, mis en examen pour détournement de fonds publics, soupçonné d'avoir utilisé des agents municipaux à des fins personnelles alors qu'il était maire. Fin mai, Patrick Balkany a été condamné à 5 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale. Son épouse Isabelle a été condamnée à 4 ans. Une 13e victoire en finale de Coupe de France au goût un peu amer pour le PSG, victoire 1-0 hier soir face à Saint-Etienne grâce à un but de Neymar. Mais ce qui a surtout marqué cette soirée, c'est la sortie sur blessure de l'attaquant star parisien Kylian Mbappé. Le diagnostic de sa blessure n'est pas encore connu. Et pour finir, la météo de votre samedi, nuageux, voire un peu pluvieux sur le nord-ouest, très ensoleillé sinon sur le sud-est. Côté température, comptez 18 degrés à Brest, 27 à Paris et Strasbourg, 30 à Lyon et jusqu'à 33 à Nîmes.
Merci Adrien, j'espère que vous passez une bonne matinée à l'écoute d'Europe 1. Nous retrouvons tout de suite Laurent Mariotte et son invité. Aujourd'hui, un homme aux multiples talents, mais aussi et surtout un bon vivant, c'est Manu Payet.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est moins cher dans le marché couvert, allez,
3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30, le meilleur de la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être là les amis, vous le savez, votre ronde serviette vous attend tous les samedis. Et puis soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Entre la courgette de Nice, les fruits de mer du bassin d'Arcachon et puis les recettes faciles de Catherine Rouague, nous avons déjà franchement de quoi faire un joli menu ce week-end. Alors cuisiner, c'est vrai, on le dit régulièrement ici, il n'y a rien de tel pour savoir ce que nous mangeons. Et à propos, le confinement a eu au moins une vertu, celle de pratiquer le fait maison. Et c'est ce que nous allons faire avec Yves Candebord qui nous a vanté les mérites de la yaourtière. Mais pour l'instant, on retrouve l'ami Manu Payet. Il était venu nous rendre visite donc après ses vacances en Grèce. Et puis pour rester dans une ambiance méditerranéenne, nous avions sorti les petits farcis niçois à table.
J'essaie de passer les meilleures vacances possibles, les plus denses, les plus riches. Quand on voit à quelle vitesse ça passe, t'en parles pendant un an. Tu repenses au dessert de ce fameux restaurant qui était là l'année dernière, où tu te dis si on y retourne cette année, il faut absolument qu'on reprenne le Banoffee. J'espère qu'ils font toujours le Banoffee. Qu'est-ce que j'aimerais pas qu'ils le fassent plus, parce que qu'est-ce qu'il était bon l'année dernière. Et hop, tu retrouves ce restaurant et que t'en profites à peine, parce que le jour où on te sert le Banoffee un an après, t'es en train de gueuler sur ta gamine. Non, pas ça. Tu déposes ça, chérie, s'il te plaît. Et bim, tu te retrouves dans l'avion du retour. Profiter de ces vacances quand on y est.
Ramener quelques bouteilles dans ces valises qu'on a dégustées en vacances. Puis les déguster à Paris tranquillement sous la pluie, elles ont pas le même goût. Mais
la cuisine, c'est une affaire de famille chez vous, Manu Payet, parce qu'un jour votre papa vous a montré comment faire confiance à quelqu'un.
Ah oui, mon père un jour m'a dit cette phrase magnifique, et c'est depuis ce jour que je me suis rendu compte de à quel point c'était culturel la bouffe à la Réunion et la table. je m'étais un peu, je sais pas, j'étais séduit par un mec plus âgé que moi, que je trouvais comme ça, très loquace, beaucoup de charisme, etc. Alors je l'écoutais, je lui posais plein de questions, je me disais sûrement un jour quand je serai grand, je veux être lui. Mon père s'est levé, il était au bout de la table, il est venu me voir, s'est penché dans mon oreille et m'a dit... Lui fais pas confiance, à lui il mange rien.
Mais c'est tellement vrai, ouais, voilà. Ouais. Il faut manger, il faut aimer manger quand même quand on
pas
est
mal,
à table.
Hein,
c'est pas mal.
Pas
et
mal.
C'est comme les gens qui ne mangent pas de chocolat, faut faire attention.
Exactement. Moi, et ben cet homme est en prison. Bonjour. Non, <j'étais>
vous avez grandi à La Réunion, la cuisine créole fait toujours partie de votre identité culinaire, Manu.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est des moments où en fait, c'est des besoins que j'ai parfois. Il faut que j'y retourne. Parfois, je traverse Paris pour aller dans un petit resto créole. Avec mon journal, je vais déjeuner seul, tranquille à ma table. Oui, il y en a deux qui sont corrects.
Allez-y.
Il y en a deux qui sont corrects. La charrette créole oui. Dans le 14e, on n'est pas loin d'ici. Et puis le Bernica. Bernica, institution réunionnaise. Qui a plus de 35 ans, je crois, d'existence. Malheureusement, je crois que l'aventure touche à sa fin parce que c'est tenu par une famille, la maman, tous les frères et sœurs. Et je crois qu'ils sont fatigués. Alors, ils veulent s'en séparer, ils veulent vendre. Malheureusement, mais enfin bon.
Alors, il est midi passé, c'est l'heure du plat du jour. Les amis, on vous emmène dans les coulisses d'un plat du pays niçois. Ce sont les fameux petits farcis. Et Frédéric Michel, l'envoyé spécial d'Europe 1 dans le midi, nous présente Huguette. Elle a du tempérament, elle a du caractère. Huguette, c'est une célèbre cuisinière au pied de l'Audiberg à Andon, dans les Alpes-Maritimes. C'est juste au-dessus de Grasse. Elle se lève à 3h30 du matin tous les jours pour se mettre au fourneau. Son restaurant, c'est à la Bonne Franquette. Comme les petits farcis niçois, découvrons ceux d'Huguette.
Déjà, je fais blanchir des oignons, des courgettes, des poivrons. Vous les mettez dans l'eau, vous les laissez bouillir, même pas 5 minutes. Après, vous les sortez. Vous gardez le bouillon qui me servira pour mettre au fond des plaques pour pas que ça accroche. Après, je fais ma farce. Je mets du jambon dedans, de la viande, un petit peu de viande, mais très peu. Après, je mets de la mie de pain trempée dans le lait, de l'ail, du persil, des œufs, du riz et le dedans que je creuse, tous mes légumes que j'ai fait blanchir. Et après, avec une cuillère, je remplis, avec la farce que j'ai fait, je remplis les farcis. J'y mets un peu de persil dessus, de la chapelure, un peu d'huile d'olive et je passe au four. Chaud, four chaud. Et après, on baisse un peu pour pas que ça brûle. 150, 160. Voilà, four très fort au début.
Pendant combien de temps ?
Ben, ça cuit quand même bien 20 minutes. D'ailleurs, voyez mes petits farcis ?
Montrez-moi.
Ils sont dans le four. Vous les voyez ? Dans cela, il y a de la courgette, de la tomate et des oignons. Comme il y a plusieurs légumes, ça donne de bon goût. Parce que si par exemple on ne fait que des oignons ou que de la courgette, c'est pas pareil. C'est le mélange qui va faire le goût. Vous voyez, je mets un peu de bouillon au fond pour pas que ça accroche.
Voilà. Ça, c'est une bonne petite astuce.
Et oui. Oh, vous savez, je donne mes recettes volontiers finalement. Hein. Puis je fais beaucoup de choses. Toutes les pâtisseries, je les fais moi-même. D'ailleurs, je vais faire attention laisser brûler mes tartes au citron. Sinon...
Ah bah oui, eh oh, pas cramer la tarte au citron, Huguette.
Encore quand c'est un peu caramélisé, c'est pas mal. Hein.
Alors ça fait débat, est-ce qu'on blanchit ou pas les légumes avant de faire des petits farcis ? Quand de bord, on n'est pas obligé, mais Huguette, elle a envie de faire comme ça.
Je dirais qu'il n'y a pas de débat, parce que je pense qu'il y a autant de recettes qu'il y a de grand-mère.
Exactement.
Voilà. À un moment donné, je pense que c'est des recettes traditionnelles françaises. Chaque famille a son petit secret, et chaque famille est persuadée que c'est les meilleurs. Et c'est ça qui est beau, quand on va chez des gens qui nous préparent un plat et qui vous... Ils sont sûrs et certains que c'est le plus beau plat du monde.
Ah, mais il y a du monde a qui vient manger ces petits farcis.
Bien sûr que... Et ça ne m'étonne pas. Mais moi, j'ai envie d'y aller quand je l'entends.
Eh bien, merci Huguette. On a envie de la rencontrer, absolument. Ne bougez pas. On continue à faire connaissance avec Manu Payet, qui est notre invité. On revient tout de suite, juste après ça. Et nous répondrons aussi aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants. Bon samedi midi sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être avec nous à la table des bons vivants. Le parrain de la saison 2 a un bel appétit, c'est Manu Payet. Il est venu prendre des forces au studio Coluche à Europe 1. On va répondre justement aux questions que vous posez au 39-21, les amis. Voici une première question.
Bonjour, je m'appelle Nadia, je viens de Chambéry et j'avais une question pour la table des bons vivants. En fait, je voulais savoir comment faire des tomates confites, si vous pouviez me donner la technique ou la recette. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.
c'est la pleine saison des tomates. Alors là, si on veut les confire, les faire en coulisses, c'est là vraiment la pleine saison. C'est maintenant qu'elles sont le meilleur, on est d'accord,
Yves Candebord. C'est maintenant qu'elles sont le meilleur, parce que c'est maintenant qu'elles sont les plus charnues, il y a plus de chair. Et c'est vrai qu'une tomate confite, c'est assez particulier à faire. L'idéal, c'est prendre une variété de tomate qui s'appelle la Roma.
Oui.
Là, c'est un genre d'olivette.
Un peu allongée.
Voilà, un peu allongée, parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup de chair et elle est intéressante. Alors, il suffit de la couper en deux, d'enlever avec la cuillère ou de presser légèrement, d'enlever les pépins. Après, moi, j'ai une petite astuce. Une fois que vous avez fait ça, vous les mettez à plat sur une plaque. Vous les salez légèrement. Vous les salez. Et là, vous allez les laisser reposer pendant 1 à 2 heures. Le fait de les avoir salées...
Elles dégorgent.
Elles vont dégorger, comme on fait dégorger, par exemple, un concombre. Ça va enlever un maximum d'eau de la tomate. Une fois que vous avez fait ça, vous les remettez sur une plaque pour aller au four. Alors, vous mettez, bien sûr, le côté plat au contact de la plaque. Vous les assaisonnez de sel de poivre. Vous pouvez y mettre, si vous voulez, un peu de pétain, un peu de laurier, un peu de romarin. Je dirais envie de vous dire, mettez un peu le goût que vous avez envie
les
de
vraies herbes de Provence, oui.
Les vraies herbes de Provence, pas les herbes de Provence qu'on achète toutes prêtes.
Non, c'est pour ça que je dis les vraies embruns, pas celles qui viennent de Turquie et
voilà,
qui sont toutes sèches. Oui.
Et après, vous les mettez dans un four. L'idéal, c'est de le faire la nuit. Vous mettez un four à 80 degrés durant toute la nuit. Vous les mettez, ça va durer 6 à 7 heures. Quand vous le matin, vous avez une tomate. Voilà, qui est confite, qui est séchée.
Alors, soit on s'endort avec les tomates et on se réveille avec les tomates confites.
Et on s'endort sans odeur et on se réveille dans avec l'odeur
c'est
de la
garrigue.
C'est magnifique.
Et on garde la peau de la tomate.
On garde la peau de la tomate. Moi, je préfère. Alors, il y en a qui vont vous dire qu'il faut les enlever avant. Mais si vous l'enlevez avant, votre tomate,
elle va plus tenir.
Il n'y a pas tellement de tenue.
Oui, oui.
Et une fois que la peau est confite, moi, je trouve que ce n'est pas très dérangeant. Après, pour les conserver, soit vous les utilisez de suite, vous les mettez dans une salade, vous pouvez les mettre dans des pâtes, ou alors... Carrément, mettez-les dans un peu d'huile d'olive au frigo et ça, vous pouvez vous les garder pendant quelques semaines
c'est
sans aucun problème.
Merci Yves Candebord. Une question, tiens, Manu Payet, c'est une nouveauté cette année. On va demander à nos invités de poser une question sur un truc en cuisine où on pourrait vous donner un coup de main.
Me demandez pas comment faire rougail.
Non, ça, il sait faire. Hein, moi non plus, me demandez pas.
Non, ça va encore. Ça va à peu près. En revanche, à chaque fois que j'essaye, je me la foire carrément. Et la question est très simple, c'est la mayonnaise.
Ah bon?
À chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, bon, je vais réessayer. Et je pense que là, ça devrait marcher, puisque j'ai foiré 3-4 fois maintenant. Normalement, ça devrait fonctionner.
Que le jaune, hein, pas le blanc, hein, pour
ben
la
oui,
mayonnaise.
Je sais bien, je sais bien. Pourtant, j'ai regardé les techniques, je suis allé sur YouTube. Je pense que je n'ai pas la patience. Ou alors, je me dis déjà, en la commençant, que je vais la foirer.
Ah ben non, il faut pas. Oui, c'est vrai que c'est...
Est-ce que c'est pas le débit d'huile qui est trop rapide au début? Parce que souvent, quand on rate la mayonnaise, c'est qu'on a un débit d'huile qui est trop rapide au début. Il faut y aller très, très, très lentement, dès qu'on voit que ça commence à prendre. Et après, on peut accélérer le mouvement. Mais c'est vraiment au tout début que le débit d'huile doit être minimum. Et puis, je rappelle à destination de mon ami Yves Candebord, car nous avons été effectivement
chahutés sur les réseaux sociaux,
que dans une mayonnaise traditionnelle, il n'y a pas de moutarde. On peut évidemment en rajouter, bien évidemment,
tout le monde
c'est
le
délicieux,
fait
tout le monde le fait, mais que dans l'escoffier, dans l'histoire de la mayonnaise, mon cher Yves, au tout départ, il n'y a pas de moutarde.
C'est du sel, effectivement, un petit peu de vinaigre, le jaune d'œuf, et puis l'huile.
C'est vrai qu'escoffier n'en mettait pas, mais historiquement en France, on en met
bien. Tout le monde en met.
Et puis c'est tellement meilleur.
Après, il y a quand même une chose importante, je reviens sur la mayonnaise, parce que je ne voudrais pas que vous la rouloupiez une autre fois.
Merci beaucoup.
La base de ça, c'est que tous les ingrédients doivent être à même température.
Et oui.
Si vous sortez les œufs du frigo et que vous prenez l'huile dans le placard,
ça
marche
pas.
Sûr que ça ne marchera pas.
Alors, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Scientifiquement, Hervétis a démontré le contraire.
Oui, mais...
La mayonnaise est une réaction
ça y est, c'est
physique.
Sur un autre débat.
C'est une réaction purement physique
ça, c'est la rentrée.
Qui n'a rien à voir avec la température des ingrédients.
Eh bien, nous referons un débat. En tout cas,
vous avez... comme vous voulez. Mais moi, je peux vous dire
en ce qui vous concerne, Manu Payet, réglez votre débit d'huile. Débit d'huile et vous verrez, ce sera tout bon. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions hein, tout au long de la semaine, du week-end et de l'année. Le 3921 vous attend et le groupe Facebook des bons vivants. Manu Payet est notre invité. C'est bientôt l'heure de vous découvrir de l'autre côté de la fourchette, Manu, avec le questionnaire des bons vivants. A tout de suite et bon samedi, on est content de vous retrouver.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. La table des bons vivants déplie les rallonges depuis 11h. Manu Payet est notre invité.
Bonjour.
Bon vivant, homme de goût. Bonjour Manu. Gourmand ou gourmet?
Les deux, je pense que c'est important d'avoir les deux talents.
L'heure des 2 minutes du vin d'Olivier Pouls a sonné. Manu Payet, vous êtes né sur l'île volcanique de La Réunion. On y fait du vin à La Réunion?
Oui, 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 oui. On y fait un peu de vin, mais enfin, c'est pas notre grande, pas notre grande spécialité, non.
Mais
non,
oui, c'est le vin Sillaos. Il y a un petit vignoble plutôt en altitude, d'ailleurs.
Exactement, Sillaos.
Sillaos. Après la lentille de Sillaos.
Exactement. Je crois que la lentille est meilleure.
Ça avait été interdit, non ? Il n'y avait pas le cépage à Jacqueline qui rendait fou ?
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Bien sûr. Non, mais c'est pas une blague.
C'est pas une blague.
C'est un cépage.
Ah non, mais je sais que c'est pas une blague. Moi, je l'ai pas dit, mais enfin bon.
J'ai fait les GRE, moi, une fois.
Ah, je connais.
Alors, Olivier, vous allez nous parler des vins d'une autre île, hein, c'est l'île de beauté, la Corse, et ses vignobles, parce qu'il y en a des vignobles en Corse. Hein.
Magnifiques vignobles, parmi les plus beaux de France, d'Europe, très vieux vignobles, on faisait déjà du vin en Corse du temps des Grecs, puis des Romains. Puis il y a une histoire un peu compliquée, ça a été plutôt bien, plutôt moins bien, et on va dire que depuis les années 90, et l'arrivée vraiment d'une nouvelle génération, le vignoble corse a repris beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce vignoble ?
Alors d'abord, c'est un petit vignoble, il fait à peu près 7000 hectares, réparti tout le long du littoral, il y en a du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais surtout, la diversité des sols et la diversité des cépages, parce qu'en Corse, il y a une vraie identité empélographique, c'est-à-dire des cépages très propres à l'île, qu'on trouve pratiquement nulle part ailleurs et qui donnent vraiment une caractéristique propre au vin corse.
C'est ce qu'on appelle les cépages endémiques, c'est lesquels alors ?
Ah ben, par exemple, le Nieluccio, qui est un cépage rouge qui donne des vins très tendres, très délicats, pas très colorés, mais avec beaucoup de finesse. Le Siacarello, bien sûr, qui est un cépage aussi emblématique du vin rouge. Pour les cépages blancs, le Vermentino, je vous en ai apporté un, tiens, vous allez déguster ça, d'un très joli domaine, le domaine d'Alzipratu, en Corse, du côté de Calvi, un vin d'une belle finesse,
Pumonté.
Une belle fraîcheur, voilà exactement la cuvée Pumonté.
C'est droit, c'est frais, c'est fruité en même temps aussi, ça.
Mais c'est un peu le style des vins corse, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que ce sont des vins qui tapent, qui sont des vins de soleil. Pas tant que ça, parce qu'entre l'altitude, les cépages adaptés, les terroirs, on garde toujours beaucoup d'élégance, toujours beaucoup de fraîcheur et un côté très digeste dans ces vins.
Ils sont de plus en plus à la mode, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a une incidence sur les prix, les prix gonflent ?
Ils sont chers parce que d'abord, on en produit peu et évidemment, ouais. Il y a une grosse consommation locale, ils en exportent assez peu. Et puis parce que c'est des vins aussi qui sont compliqués à produire. Il faut être allé en Corse pour voir qu'il y a de la pente, le terrain est hostile et donc ce sont évidemment des vins un peu plus chers que les autres vins du continent. On va trouver des vins à partir de 15-20 euros et parfois un peu plus.
Tiens, mettez votre casquette de caviste, Olivier Pouls, et faites-nous une petite série. Élection.
Voilà, Alzipratu dont on parlait, mais on ne peut pas parler de la Corse sans parler d'Antoine Arena, de Yves Leccia, du Clos Canarelli, de tous ces gens qui ont fait tellement de bien à la Corse. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut redécouvrir ces vins.
Eh bien, merci. On retrouvera évidemment les références sur europe1.fr. Merci Olivier. Manu, c'est l'heure de vous passer sur le grill du questionnaire des bons vivants. Mmh. Ça chauffe,
attention,
ça crépite,
ouais.
C'est
un barbecue.
Quel est le goût de votre enfance, Manu Payet ?
Alors moi qui suis plus pourtant salé que sucré, beaucoup plus, je dirais quand même le lecci. Nous prononçons lecci, nous l'écrivons L-E-T-C-H-I, c'est le fruit, le litchi, qui pousse à La Réunion au mois de décembre. Et qui est pour moi, je crois que je saurais reconnaître un litchi de La Réunion, un litchi d'ailleurs.
On a la chance d'en trouver vers janvier-février avec des branches, hein, le fameux litchi branche, ouais. Qu'on a sur nos étals, qui n'a rien à voir avec le litchi qui était dans des bains de soufre qu'on trouve un petit peu tout le temps.
Qui n'est pas rouge.
Et qui n'est pas rouge, comment vous l'appelez ?
Comme notre litchi.
Litchi. Ouais, ouais. Votre plus beau repas ?
Le repas de ma grand-mère, toujours à La Réunion donc évidemment, et tout ce qu'elle cuisait au feu de bois. Il y a beaucoup de Réunionnais qui ont une cuisine à l'arrière de la maison, où on cuit les caries, les rougailles qu'on fait chez nous généralement, mais au feu de bois. Et je dirais que le civet de poulpe de ma grand-mère au feu de bois, c'est quelque chose des enfants que vous ne goûterez pas malheureusement. Je vous annonce quand même une mauvaise nouvelle, c'est que ma grand-mère est partie. Mais alors, regardez dans mes yeux.
Ça fait envie. Ah oui,
voyez,
il est là, le civet.
Vous voyez ce que je veux dire ?
On voit le civet, voilà, de poulpe.
Voilà.
Et votre pire repas, Manu Payet ?
Ah ben, mon pire repas, c'était la semaine dernière en Grèce. C'est vrai, en plus, parce que j'ai écouté, il s'appelle Mathias, tiens, je vais le citer, qui dit, alors si vous en avez marre de bouffer grec, il y a un petit Italien. Alors je vous garantis, on y est retourné avec ma femme. On y est retourné, c'est vous dire. Sur 10 jours de vacances, on l'a fait 2 fois. Mais c'est dingue, on va le faire quand même ce truc. Et c'est vrai que l'année dernière, on était déjà passé devant. J'ai dit, bon, écoute, on était un peu snob. Et puis on s'est installé. Et je me suis dit, ces gens-là qui nous accueillaient sont beaucoup trop gentils pour que ce soit bon.
Ça sent l'escroquerie. Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer, c'est une nouvelle question, Manu Payet.
Ah, il y a beaucoup de choses qui m'intriguent et qui resteront du côté du mystère. J'avais lu ce texte où l'on parlait de Mitterrand et de son amour des ortolans.
C'est interdit, on pourrait y arriver, ça.
Ouais, mais je sais que c'est aujourd'hui, c'est je sais que c'est interdit.
Mais dans le sud-ouest, sous le manteau, parfois, oui.
Mais je sais pas si, devant, une fois face au truc, je pourrais y aller. Je sais pas, parce que ensuite j'ai vu Maïté en parler et aller le voir la vidéo est sur YouTube.
Elle suçote l'ortolan.
C'est
magnifique cette vidéo, il faut aller la voir.
Aller la voir, la vidéo, c'est vraiment dingue. Le plat que j'aimerais essayer, franchement, ce serait plutôt des pays que j'ai pas encore visités, dont j'aimerais connaître la gastronomie. Moi, j'adore quand je voyage découvrir les pays à travers leur gastronomie.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte, Manu Payet ?
Des œufs.
Oui, vous allez tenir là.
Oui. Comme ça, je pourrais les faire. Voilà.
Mollet.
Et puis aux oursins, parce que je serai sur une île.
Ah, une brouillade aux oursins, c'est magnifique.
Ah ouais, voilà.
Reconnaître.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Oh, des copains, la famille, des bons vivants. Pas le mec dont mon père m'avait dit, lui fais pas confiance à lui, il mange rien. Non, des bons vivants. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est dingue, c'est les gens qui s'attablent et qui réussissent à ne pas évoquer une seule seconde ce qu'ils sont en train pourtant de se mettre dans la bouche, alors que pendant tout le repas. Et un soir, j'ai même dit, attendez les mecs, vous voulez pas qu'on fasse pause ? Est-ce que c'est bon ce que vous bouffez ?
C'est vrai.
Ça fait une heure qu'on parle de tout et de rien, et vous mangez, vous engloutissez des trucs.
Vous avez raison.
Et en fait, vous ne profitez pas.
Votre adresse secrète, Manu Payet ?
Alors, il y a un restaurant que je vais peut-être refaire, parce que je vais retourner dans le sud, là, dans pas longtemps. C'est la Merenda à Nice, que j'aime beaucoup. Déjà, on a l'impression d'être des privilégiés, parce qu'il y a très très peu de tables à l'intérieur de ce resto. Il n'y a pas de réservation. C'est souvent un coup de bol quand il arrive à être attablé. Comme la petite maison, tout à l'heure on parlait des farcis. Moi, je connais très bien les petits farcis de la petite maison. Et aussi les pâtes au pistou, notamment le stockfish de la Merenda.
Eh bien, dites donc, un beau casting. Et le mot de la fin, F-A-I-M, Manu ?
À table, bordel.
Mais nous y sommes. Et comment ? À table, Manu Payet. Et puis merci pour ces belles réponses à notre questionnaire. Rendez-vous samedi prochain, même endroit, même heure, pour retrouver d'autres meilleurs moments. Profitez de l'été pour faire le marché et cuisiner. Et puis n'oubliez pas les circuits courts. On était bien contents de les trouver pendant la crise. Alors continuons de soutenir nos paysans et faisons aussi nos courses en vente directe. En vacances, regardez bien. Je suis sûr que vous avez de belles adresses autour de vous. Et puis vous retrouverez toutes les recettes de l'émission et les podcasts. Bien entendu sur europe1.fr. Voilà les amis, bonne cuisine d'été et bon week-end sur Europe 1. On sera là samedi avec Chantal là-dessous.
Merci Laurent, on vous retrouve samedi prochain à la table des bons vivants dès 11h. L'information de la mi-journée arrive tout de suite avec Adrien Beck. Europe 1, bon week-end, il est midi 27.